France Culture.
Le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Au lendemain de la mobilisation contre l'austérité, les organisations syndicales donnent jusqu'à mercredi au nouveau Premier ministre pour répondre à leurs revendications. On conclura cette semaine sociale et politique avec notre invité aujourd'hui, le politiste Olivier Rosenberg. Et puis on tâchera de comprendre la nouvelle mission que s'est donnée Sébastien Lecornu de rendre l'État plus efficace. À suivre également cette question, existe-t-il aujourd'hui un statut juridique attaché au pavoisement des frontons de mairie? Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau réclame au préfet de s'opposer au maire qui déciderait donc de pavoiser leur hôtel de ville aux couleurs palestiniennes lundi prochain, c'est-à-dire le jour même de l'officialisation par la France d'un État de Palestine. On tâchera de savoir ce que nous dit le droit. Enfin, on parlera patrimoine et en l'occurrence de ces dizaines de milliers de monuments aujourd'hui dans un état critique. Mais pour commencer, on l'a appris ce matin, une quarantaine de djihadistes français actuellement emprisonnés en Syrie vont être transférés en Irak. C'est du moins ce qu'affirment plusieurs sources à la fois françaises et irakiennes. 47 hommes au total, jusque-là détenus par les forces kurdes de Syrie depuis la défaite territoriale de Daesh, c'était en 2019. La question de leur rapatriement ou non dans l'Hexagone a longtemps été posée. Plusieurs d'entre eux réclamaient à purger leur peine en France. Noé Pignette, bonjour.
Bonjour.
Ils seront donc finalement transférés en Irak pour y être jugés. Certaines sources affirment même que le transfert a déjà eu lieu.
Et parmi ces détenus pourraient se trouver des figures très importantes de Daesh, Quentin Lebrun, Thomas Collange ou encore Adrien Guial, des vétérans du djihad dont certains étaient membres de l'AMIAT, les services extérieurs de l'organisation terroriste chargée d'organiser des attentats à l'étranger. Les Kurdes détiennent 67 Français selon une source proche des services de renseignement. 47 seulement seront transférés. C'est le deuxième transfert de Français de la Syrie vers Bagdad. En 2019, déjà, 11 hommes avaient été transférés et condamnés à mort. Peine depuis commuée en prison à perpétuité. À l'époque, cela avait provoqué une levée de boucliers des organisations de défense des droits humains, dénonçant des simulacres de procès expéditifs 30 minutes, sans vrai avocat ni traducteur. L'Élysée, de son côté, avait mollement défendu une justice irakienne équitable. La position de la France reste la même. Les djihadistes doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. Sauf que parmi les hommes qui seront jugés à Bagdad, certains pourraient être impliqués dans des attentats en France. Plusieurs associations de victimes demandent d'ailleurs depuis des années qu'ils soient rapatriés pour être jugés sur le sol français.
Merci Noé Pignède. Comment mettre fin au carnage humanitaire qui ravage la bande de Gaza et ainsi espérer surmonter la menace de voir s'installer une guerre sans fin au Proche-Orient? Parce que le gouvernement incoercible de Benjamin Netanyahou semble devenu imperméable à toute argumentation logique. Quelques 140 chefs d'État et de gouvernement sont attendus la semaine prochaine à New York pour la grand-messe annuelle de l'ONU, censée décider de l'avenir d'une solution à deux États où Israéliens et Palestiniens vivraient côte à côte et en sécurité. Déjà la semaine dernière, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à une majorité écrasante un texte soutenant le principe d'un futur État palestinien, en excluant sans équivoque le Hamas. Problème, non seulement les États-Unis, principal allié d'Israël, se sont publiquement opposés à cette initiative. Ils ont d'ailleurs annoncé qu'ils n'accorderaient pas de visa à la délégation palestinienne en violation du droit international. Mais plus que tout, le Premier ministre Benjamin Netanyahou lui-même a clairement dit et répété qu'il n'y aurait pas d'État palestinien. Et c'est ainsi que face à la fuite en avant de l'État hébreu, le président Emmanuel Macron, au défi de transformer un symbole en acte, a choisi d'accorder une interview à une chaîne de télé israélienne pour tenter de convaincre l'opinion que cette reconnaissance d'un État palestinien fait partie d'un vaste plan de paix. Alors rien ne dit que cela suffise au chef de l'État pour espérer faire un leg diplomatique majeur, qu'on fait d'ailleurs toutes les tentatives avortées de ses prédécesseurs, sans compter que de manière assez étrange, ou à tout le moins paradoxal, on a appris ce matin que le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau avait demandé au préfet de s'opposer à la pose de drapeaux palestiniens sur le fronton des mairies lundi prochain, c'est-à-dire le jour même où Emmanuel Macron officialisera, lui, à New York, la reconnaissance par la France d'un État de Palestine. Mathilde Cariou, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, la place Beauvau invoque pour cela le principe de neutralité du service public. D'un point de vue strictement juridique, Mathilde, les édiles ont-ils le droit d'afficher le drapeau qu'ils veulent au fronton de leur mairie?
En théorie, non, car les mairies accueillent des services publics et sont donc soumises, vous l'avez dit, au principe de neutralité. C'est comme ça que Bruno Retailleau justifie sa demande auprès des préfets et que le tribunal a tranché chaque fois que le cas s'est présenté pour la Palestine ou pour d'autres causes, nous dit Guillaume Baticle, chercheur en droit public et auteur pour le site de vérification Les Surligneurs.
On avait eu un cas de drapeau indépendantiste dans les Antilles. On avait un gilet jaune qui avait pu être affiché. On avait une banderole contre la réforme des retraites. Et en fait, à chaque fois, le juge a dit que c'était contraire au principe de neutralité du service public, alors que ce bâtiment doit rester neutre.
Dans ce cas, la mairie reçoit une mise en demeure, puis une amende, et in fine, c'est le contribuable qui paye. Mais alors pourquoi, c'est la grande question, pourquoi est-ce qu'on peut afficher un drapeau ukrainien et pas un drapeau palestinien ? Eh bien parce que le soutien à l'Ukraine, ça n'est pas la position personnelle du maire de telle ou telle commune, mais une directive de l'État, c'est ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles en 2024.
Le juge parlait justement d'un symbole de solidarité envers une nation victime d'une agression. Cette initiative a été encouragée par le ministre en charge de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Donc si on suit cette logique, il est possible que les drapeaux palestiniens soient autorisés.
Admettons, lundi, Emmanuel Macron reconnaît l'État de Palestine et que lui ou le gouvernement déclare qu'il faut afficher notre soutien à ce nouvel État que nous venons de reconnaître, eh bien les maires pourront le faire et ne seront pas sanctionnés.
Mais en fin de compte, la décision revient au juge, saisi par les préfets après l'affichage des drapeaux. La notion d'élan national de solidarité reste donc à leur appréciation.
Merci Mathilde Cariou. On évoquait tout à l'heure le prochain sommet des Nations Unies. Dès aujourd'hui, le Conseil de sécurité devrait, sauf surprise, donner son feu vert au rétablissement des sanctions contre Téhéran. Les Européens notamment jugent insuffisant l'accord conclu le 9 septembre dernier entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique sur un nouveau cadre de coopération. La République islamique dit toutefois ce matin avoir fait la veille une proposition, je cite, équitable et équilibrée pour éviter que ne s'exécute la menace.
Midi passé de 36 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Deuxième coup de semonce en 8 jours pour le nouveau Premier ministre, la mobilisation hier pour davantage de justice fiscale, en même temps qu'un changement de cap politique a réuni 500 000 personnes selon les autorités, quand les syndicats estiment qu'ils ont emmené dans leur rang 1 million de manifestants, de quoi permettre aux organisations de s'interroger sur les moyens de maintenir la pression. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
L'intersyndicale était réunie ce matin. Comment Camille envisage-t-elle le jour d'après ?
Alors ce sera les jours d'après, les 5 jours d'ici à mercredi prochain que laissent les organisations syndicales au Premier ministre, une sorte d'ultimatum finalement pour accéder vraiment à leurs revendications. Et sinon, eh bien, l'intersyndicale prévient qu'elle lancera un appel à une nouvelle journée de grève unitaire et interprofessionnelle, comme celle d'hier qui a été un succès selon les 8 dirigeants réunis ce matin. Une manière de dire que les promesses de dialogue réitérées après les manifs par Sébastien Lecornu ne suffisent pas, que les syndicats ne vont pas aller négocier un par un à Matignon au risque de briser l'unité de l'intersyndicale. Comme ils ont obtenu que soit abandonnée l'idée de supprimer 2 jours fériés, ils veulent à présent l'abandon de l'ensemble du projet de budget Bayrou, le doublement des franchises médicales, la suppression de 3000 postes de fonctionnaires, la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Bien sûr, c'est le grand débat du moment. Il y a aussi dans leurs revendications la justice fiscale avec plus d'impôts pour les gros patrimoines et les très hauts revenus. Autre revendication, l'instauration de conditions sociales et environnementales aux centaines de milliards d'euros d'aides publiques qui sont accordées chaque année aux entreprises, plus de moyens pour les services publics et toujours ce marqueur de l'intersyndicale, l'abandon de la retraite à 64 ans. Alors les syndicales disent, ils s'estiment en position de force pour obtenir un vrai changement de cap budgétaire pour que ce ne soit plus seulement au monde du travail de se sacrifier pour éponger les déficits publics. Sébastien Lecornu a donc jusqu'au 24 septembre, mercredi, s'il veut éviter de voir à nouveau 1 million de Françaises et de Français, selon les organisateurs, en grève et dans la rue.
Merci Camille Manière. Alors, outre les organisations syndicales, la mobilisation d'hier devrait également permettre aux oppositions d'instaurer un rapport de force avec l'espoir de peser sur la feuille de route de Sébastien Lecornu, toujours en quête d'une majorité stable et d'un futur gouvernement de rupture. Après le test de la rue, retour donc aujourd'hui à la case politique, avec quelle perspective ? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Olivier Rosenberg, politiste, chercheur associé à l'université Louis de Rome. Bonjour monsieur.
Bonjour.
10 jours après sa nomination, la situation semble en réalité toujours assez inextricable pour le Premier ministre. Comment Sébastien Lecornu peut-il encore entretenir l'espoir de s'assurer la bienveillance donc du Parti Socialiste d'un côté et puis sans heurter donc les Républicains de l'autre ?
Oui, bah, il y a une position d'équilibriste qui est assez évidente, qui n'est pas exactement la même, puisque pour LR, l'enjeu, c'est qu'il reste dans le gouvernement, et pour les socialistes, c'est de ne pas être censuré lorsque le budget sera examiné, et que probablement 49-3 sera utilisé. Donc il est sur la corde raide. En même temps, ce qu'on voit depuis sa nomination, c'est une volonté qui semble un peu plus prononcée, j'allais dire authentique, que lors des deux précédents gouvernements, de négocier, en tout cas une compréhension qu'il est nécessaire de négocier avec les socialistes notamment, sous peine d'échec très rapide.
Quels sont justement, on va dire, les grands principes dans la négociation de coalition que Sébastien Lecornu donc pourrait faire valoir afin d'aboutir là où ses deux prédécesseurs ont échoué?
Le principe, c'est quand on voit nos voisins européens, c'est de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire une fois la nomination du Premier ministre acquise, ce qui est le cas, de prendre son temps. Alors le temps est compté, mais tout de même de prendre son temps pour essayer de négocier sur le contenu, sur les mesures. Et une fois que la négociation a été bouclée, à ce moment-là, nommer les ministres et véritablement commencer le travail gouvernemental, proposer un budget. Ce qu'on a en France, ce qu'on a eu depuis quelques années, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire une équipe gouvernementale qui est nommée et qui après va essayer de trouver des accords, mais c'est déjà quelque part un peu trop tard parce que les crispations sont là, les oppositions peuvent être déçues, etc., de la nomination du gouvernement. Donc prendre au sérieux la négociation, c'est dès maintenant dire est-ce que vous voulez quelle taxe Zucman on fait, par exemple, dans quelle mesure, etc.
Et au-delà du contenu, il faut peut-être aussi négocier déjà les règles du jeu.
Alors, il y a la forme de la négociation, et là-dessus, autant je trouve que Sébastien Lecornu prend son temps et qu'il y a un écart avec ce qui était fait auparavant, autant il va falloir un moment sortir de ce qu'on voit, c'est-à-dire des grandes messes où on se rencontre à Matignon, où les journalistes attendent dans la cour, parce que c'est un peu trop convenu. Pour négocier, à un moment, il faut se rencontrer en dehors de ces endroits-là, il faut se rencontrer en secret, et y passer du temps, et y passer des nuits.
À l'instant, Camille Magnard a expliqué donc comment l'intersyndicale, fort de la mobilisation d'hier, a choisi de donner jusqu'à mercredi à Sébastien Lecornu pour répondre à ses revendications. Est-ce que la mobilisation dans la rue peut réellement peser dans la constitution d'un gouvernement et de sa feuille de route?
Alors, sur l'équipe gouvernementale, sans doute pas, parce que il n'est pas d'actualité que les socialistes entrent au gouvernement. Sur le contenu programmatique, oui, tout simplement parce que, en fait, Lecornu a besoin que le MEDEF lâche du lest, si j'ose dire, et ainsi que les LR, a besoin qu'il y ait une compréhension que peut-être qu'il va falloir réformer la réforme des retraites sur tel ou tel point, que effectivement il faudrait une justice fiscale plus importante. Et dans ce rapport de force, le fait d'avoir les syndicats qui font pression, qui seront là la semaine prochaine, qui posent comme ça des jalons et des ultimatums, ça pourrait paradoxalement aider Lecornu à obtenir des concessions de ses alliés.
Dans le camp présidentiel, certains espèrent qu'un accord avec la CFDT pourrait forcer le PS à ne pas censurer le prochain gouvernement, le contraignant donc à soutenir des avancées jugées satisfaisantes par la première organisation syndicale de France. Est-ce que cette hypothèse vous semble probable ?
Pas tout de suite et pas comme ça. Parce que s'il y a un accord, c'est un accord entre partenaires sociaux. Donc ce serait la CFDT avec des représentants du patronat et pas avec Lecornu ou le gouvernement, me semble-t-il. Mais on voit bien quand même que la CFDT et les socialistes travaillent un peu de concert dans le même sens, ce qui montre une forme de repolitisation gauche-droite d'ailleurs à l'œuvre de façon très rapide ces derniers jours.
Une dernière question. On a parlé jusqu'à maintenant de comment le nouveau Premier ministre pourrait chercher à résoudre une énigme qui a coûté leur place à ses deux prédécesseurs, avec l'idée donc sous-jacente qu'un changement de culture de gouvernement s'imposerait pour consolider une coalition gouvernementale. Dans le fond, est-ce que c'est vraiment l'objectif de Sébastien Lecornu? Est-ce que dans la mission qu'il s'est donnée, l'exécutif n'est pas plutôt désireux de continuer à forcer le soutien de certains partis au nom de leur esprit de responsabilité pour obtenir un soutien à minima et donc maintenir finalement les fondamentaux de toute la politique menée depuis maintenant 2017?
On va voir. C'est l'heure de vérité pour Lecornu quelques jours après sa nomination. Si la semaine prochaine il nomme un gouvernement sans avoir bouclé une négociation avec les socialistes, alors effectivement il serait plutôt dans l'hypothèse on leur force la main. Mais il n'est pas interdit de penser que il y a une prise de conscience au sommet de l'État que on va dans le mur s'il faut nommer un quatrième Premier ministre en moins d'un an, et que ils vont vraiment jouer le jeu de la négociation plutôt que forcer la main.
C'est bien compris. Merci Olivier Rosenberg, politiste, chercheur associé donc à l'Université Louis de Rome, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à Loïs Guérin pour la préparation.
C'est l'une des toutes premières annonces du nouveau Premier ministre. Et même si elle reste assez largement symbolique, Matignon veut en faire une méthode pour tailler dans les dépenses de l'État.
Oui, Sébastien Lecornu a confié une mission à deux hauts fonctionnaires afin de rendre l'État plus efficace. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Concrètement, il s'agira de fusionner ou au besoin d'ailleurs de supprimer des structures qui font double emploi dans le même champ de politique publique.
Oui, et la mission qui vient d'être créée se veut, je cite, agile dans son fonctionnement. Et pour montrer qu'elle sera elle-même efficace, Matignon annonce donc ce matin la suppression de 8 délégations interministérielles ou ministérielles, ainsi que des postes de délégués ou coordinateurs. On peut les diviser en 4 catégories. Celle dont la mission semble à première vue obsolète. Cela concerne la délégation en charge du service national universel, sachant que le SNU va progressivement s'éteindre, le poste de coordinateur des mobilités pour les JO de 2024 ou de la délégation sur ces mêmes Jeux olympiques à Bercy. Deuxième catégorie, celle dont les missions semblent toujours pertinentes, mais qui ne seront plus interministérielles. C'est le cas par exemple de la délégation interministérielle aux restructurations d'entreprises qui revient à Bercy, ou celle sur la gestion des grands événements sportifs qui dépendra dorénavant directement du ministère des Sports. On compte aussi des suppressions dont la raison et l'impact prendront plus de temps à analyser. C'est le cas de la délégation interministérielle à la forêt et au bois. Elle avait été créée il y a 16 mois sous la pression des forestiers et devait durer 3 ans. Pourquoi la faire disparaître avant ? Même chose pour le délégué à l'accompagnement des territoires en transition énergétique. Dernière catégorie, les délégations qui semblaient ne plus avoir d'activité. C'est le cas de la délégation interministérielle sur le Varenne de l'eau, créée en 2022. Son dernier communiqué de pilotage date de 2023. La supprimer semble de bon sens, mais cela mérite-t-il autant de publicité ? N'est-ce pas une décision logique plus qu'un acte politique ? Enfin, à ce stade, difficile de mesurer l'impact budgétaire de ces suppressions, puisque ces délégations sont composées de fonctionnaires qui vont revenir dans leur ministère d'origine.
Merci Marie Viennot. Alors il est un domaine où les politiques de droite et de gauche pourraient a priori se rassembler, mais où chacun des deux camps en réalité a vite fait d'orchestrer à sa manière le décor comme la mémoire du pays. C'est le patrimoine. Ce matin, Emmanuel Macron était de retour à Notre-Dame de Paris pour y inaugurer le nouveau parcours de visite, des tours restaurées de la cathédrale. Et puis cet après-midi, le chef de l'État se rendra à l'abbaye de Pont-le-Voix dans le Loir-et-Cher, le tout à la veille d'un long week-end de déambulation à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Et c'est aussi le moment qu'a choisi la Fondation du patrimoine pour tirer la sonnette d'alarme en listant nombre de petits théâtres, d'églises rurales, de moulins, de phares de France métropolitaine. Au total, plus de 67 000 monuments non protégés, lesquels se trouveraient, Pierre Repère, dans un état critique.
En France, on dénombre 350 000 monuments et édifices patrimoniaux. Les trois quarts d'entre eux sont livrés à eux-mêmes, souligne Guillaume Poitrinal, le président de la Fondation du patrimoine.
Il s'agit de petites chapelles, de lavoirs, de ponts, il s'agit de petits théâtres. Donc c'est vraiment le quotidien des paysages français. Et aujourd'hui, on estime que quasiment 67 000 en fait, monuments qui sont non protégés sont dans un état critique, donc ils sont menacés à plus ou moins long terme de disparition. La protection, ça veut dire en fait d'abord de l'investissement de la part de l'État. Et l'État ne peut pas venir au secours de tous les éléments de patrimoine du pays.
Pour protéger ces monuments, il faut donc se reposer sur la philanthropie et le monde associatif, assume Guillaume Poitrinal. En France, l'État protège déjà 46 000 monuments, mais l'État ne peut pas tout, reconnaît le directeur de la Fondation du patrimoine qui vient de créer l'Observatoire du patrimoine non protégé.
L'observatoire, c'est un outil statistique qui va nous permettre de dire chaque année ce patrimoine se dégrade ou ce patrimoine s'améliore. C'est une mesure de notre performance. Peut-être qu'à un moment donné, on va se dire, attention, il y a une urgence sur le patrimoine non protégé dans tel endroit en France et on va mettre plus d'énergie pour venir au secours de ce patrimoine.
Aujourd'hui, la Fondation du patrimoine a un budget de 100 millions d'euros consacré à la sauvegarde des monuments non protégés, un budget qui a triplé en 7 ans, pour un quart grâce aux donations des particuliers désireux de voir sauver leurs monuments.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. À peine voilé le long des côtes de la Manche, ensoleillé partout ailleurs, une journée estivale même avec un pic de chaleur à 35 degrés par endroit, selon un phénomène de plus en plus fréquent au mois de septembre sous l'effet du dérèglement climatique. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois et à 18h, vous avez rendez-vous avec Julie Paco pour le prochain journal de la rédaction.